Chers auditeurs de Radio Présence, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une version un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une émission pour une durée d'une heure avec des invités. Et le thème que j'ai retenu pour cette émission aujourd'hui, c'est alimentation, restauration collective, circuit court, deux points, le grand réveil. Pourquoi cette émission? Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que dans nos campagnes, derrière chaque repas, il y a des visages, des choix et parfois des souffrances. Et donc dans cette émission, nous parlerons alimentation, restauration collective et circuit court. En effet, un grand réveil de nous tous est nécessaire pour sauver notre agriculture et par là même nos territoires ruraux. Vous le voyez bien, chers auditeurs, les colères récurrentes et les différentes fractures qui marquent notre monde paysan aujourd'hui sont au carrefour de nombreuses crises économiques, écologiques, fiscales, sanitaires et alimentaires. Aujourd'hui, dans les Hautes-Pyrénées, nos éleveurs sont dans la détresse et dans l'action. Alors que les blocages routiers se poursuivent, avec en fond de cette colère la gestion actuelle de la dermatose nodulaire contagieuse et la signature imminente du Mercosur, eh bien, chers auditeurs de Radio Présence, je veux vous redire à l'occasion de cette émission que vous avez le pouvoir d'agir en privilégiant une alimentation locale, à la maison ou à l'extérieur. Cette émission donnera la parole à des acteurs du territoire, des Hautes-Pyrénées, afin de croiser témoignages de terrain, regards professionnels et enjeux humains autour de ce qui se joue au travers de notre alimentation. Il s'agira ce matin de mettre aussi en lumière à la fois la dignité du monde agricole, les défis de la restauration et de la restauration collective, les circuits courts comme chemin possible de justice sociale et l'alimentation comme lieu de fraternité et de soins de la création. Alors, bonjour chers invités, deux petits mots de présentation. Donc, vous avez ici autour de la table, et je les en remercie, donc Sœur Bernadette Viron,
oui.
Donc, qui est la supérieure du Centre Assomption, et je remercie Sœur Bernadette de nous accueillir ici au Centre Assomption de Lourdes.
Avec plaisir.
Aurélien Veyne, maraîcher bien connu dans nos émissions, maraîcher à Ségus. Nous avons aussi Nicolas Castède.
Bonjour.
Du collectif Alimentation 65. Et enfin, Philippe Forêt, qui est le responsable sur le secteur de la restauration collective pour le groupe Elior.
Bonjour.
Merci à tous d'avoir répondu à mon appel. Votre présence et votre parole sera précieuse pour nourrir cette réflexion collective et encourager l'initiative locale, porteuse d'espérance sur nos territoires. Peut-être une petite présentation rapide de quelques secondes chacun sur un petit peu ce que je vis aujourd'hui. On va commencer par Aurélien.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis Aurélien, maraîcher en agriculture biologique à Ségus, installé depuis 5 ans. Voilà, donc un bébé maraîcher.
Bonjour, je suis Nicolas Castède, depuis peu ancien agriculteur, producteur de fromage de chèvre au lait cru, fermier à Vigères.
Bonjour, Philippe Forêt, donc je suis responsable de secteur pour le groupe Elior. Je supervise des restaurants, aussi bien entreprises, santé, scolaires, sur une partie du 65, 64 et du 40.
Sœur Bernadette, religieuse de l'Assomption, qui s'inscrit dans ce que vit la maison depuis plusieurs décades, mais avec un élan nouveau, puisque la maison cherche à faire vivre un projet d'écologie intégrale entre différents acteurs. Et nous voulons nous inscrire dans cette recherche et dans cette mise en pratique.
Alors merci encore, chers tous, d'être autour de cette table. Et je souhaitais simplement faire déjà un peu le point sur ce qui existe, que vous vivez aujourd'hui quotidiennement autour de ce sujet et sur cette réalité, sur ce territoire de Lourdes. Et donc, je vais commencer peut-être par Aurélien, notre maraîcher, voir un petit peu, le métier de maraîcher aujourd'hui, c'est quoi concrètement pour vous, Aurélien?
Alors, le métier de maraîcher, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une question compliquée parce qu'il est pratiqué de manière très diverse en fonction des contextes climatiques et mais aussi des sensibilités de chacun. Donc je vais répondre pour moi. Aujourd'hui, le métier de maraîcher, c'est essayer de proposer une agriculture qui va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, ce qui n'est pas le cas dans l'agriculture aujourd'hui en France et dans le monde. Et voilà, donc ma mission, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas le défi que je me suis donné en m'installant paysan, c'est celui-là, c'est produire à manger produire plus d'énergie que celle que je consomme et faire cela en préservant la santé des gens qui vont manger, la santé de l'environnement, donc de notre terre, qui participe également à la santé des gens qui vont manger. Et voilà, et tout ça, si possible, en étant également un père de famille disponible et un ami disponible.
Alors tout ça a plein de sens, hein, Aurélien. Peut-être un petit peu plus concrètement, nous parler aussi de vos contraintes, vos difficultés, même des aspects financiers. Comment un maraîcher aujourd'hui, avec ce projet magnifique, plein de sens, arrive à vivre, tout simplement?
Alors aujourd'hui, dans l'agriculture en France, globalement, les salaires sont autour d'un demi-SMIC pour à peu près 70 heures de travail. C'est-à-dire que globalement, les agriculteurs travaillent deux fois plus que la moyenne des gens pour être payés entre deux et quatre fois moins. Donc c'est actuellement mon cas. Il n'y a pas de raison que je sorte du lot, sachant que je me suis mis en plus des barrières éthiques, à savoir la non-mécanisation, ne pas utiliser d'engrais qui viennent de l'extérieur, l'autofertilité à la ferme, les semences non-hybrides, enfin voilà, et j'en passe. Et donc qui ne facilite pas la chose, parce que c'est plus facile de travailler un peu moins bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de pression. C'est être à la fois chef d'entreprise, comptable, secrétaire, patron parce que j'embauche des apprentis. Et donc voilà, donc c'est gérer tout ça, c'est gérer cette charge mentale, c'est gérer non pas un troupeau, mais 50 variétés de légumes. Par exemple, quand on parle de tomates, chez nous, il y a 17 variétés de tomates. Et donc voilà, donc c'est énormément de charge mentale et de travail physique. Mais le travail physique et le travail dehors, c'est vraiment pas le plus compliqué. Souvent, on peut se dire « Ah, maraîcher, c'est compliqué ». Non, en fait, de gérer une exploitation maraîchère, sa commercialisation, ses contraintes, son climat, etc., ça, c'est compliqué. Mais travailler dehors, en général, on l'a choisi.
Merci Aurélien. Donc, je vais me tourner vers Nicolas pour regarder un petit peu la restauration sur Lourdes. Comment vous, Nicolas, dans le cadre du collectif que vous animez, quel regard vous portez sur la restauration et la restauration collective sur Lourdes aujourd'hui?
Alors, sur la restauration collective, pour préciser, je fais partie donc d'un collectif alimentation et agriculture du territoire que nous avons créé il y a de ça 4 mois à peu près. Et notre objectif est de remettre l'agriculture. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Aurélien, c'est surtout refaire prendre aux gens que l'agriculture est essentielle dans la vie. C'est ce qui nous permet de nous nourrir tous les jours. Donc, chose importante, l'alimentation, c'est aussi important. La restauration collective, localement, il y a des efforts qui sont faits, mais on sent qu'il y a des blocages qui sont compliqués à passer. Donc, le but de notre collectif, c'est d'essayer de mettre le plus de personnes autour de la table pour réfléchir à ces problématiques et savoir comment on peut remettre au cœur de la société ces débats-là, quoi. L'agriculture, comment faire de la bonne agriculture, de la bonne alimentation de qualité, qu'est-ce qu'une alimentation de qualité, voilà. Toutes ces questions, de les remettre au cœur des débats, c'est ce qui est important pour nous.
Merci. On peut être se tourner vers Philippe Forêt, qui va parler au nom d'un grand groupe de restauration collective et puis en son nom propre dans l'initiative qu'il prend ici à Lourdes. Votre regard peut-être, Philippe, justement pour nos auditeurs sur la situation de la restauration collective d'une façon large et puis plus d'une façon locale, puisque vous le vivez, vous, dans les deux dimensions.
Je vais parler à mon nom et sur la volonté que j'ai sur l'établissement et même sur l'ensemble du territoire que je chapeaute, mais qui est en lien aussi avec la volonté du groupe. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Le constat aujourd'hui, c'est la difficulté de pouvoir s'approvisionner sur le territoire et d'avoir que, je dirais, un seul interlocuteur pour éviter de pallier à tous les systèmes de logistique, etc., qui peuvent pénaliser. Et comment on peut aider les agriculteurs à mieux vivre, à mieux s'en sortir tout en utilisant leurs produits. Voilà, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un réseau qui peut regrouper tout ça. On en parlait la dernière fois et j'en ai parlé hier encore sur le 64, où en fait les producteurs ne se parlent pas et la restauration collective ne parle pas aux producteurs. Et du coup, Il n'y a pas de communication et chacun est dans son coin et personne ne s'en sort.
Merci Philippe. Sœur Bernadette, un petit regard, puisqu'on est sur le voir, un petit peu ce qui se vit aujourd'hui, Centre Assomption de Lourdes, dans le domaine de l'accueil et de la restauration des gens qui viennent au Centre Assomption. Un petit peu votre regard peut-être sur justement cette restauration.
Bon, la restauration, c'est une démarche nouvelle qui s'est instaurée dans la maison, qui ne voulait pas se limiter à des retraites ou des haltes spirituelles ou un accueil de passage, mais faire une en sorte qu'on puisse expérimenter une convivialité. Et ça a été travaillé d'abord par l'équipe restauration au niveau des repas, élaborés à partir de produits biologiques et locaux. Et ça suppose une véritable collaboration entre maraîchers, entreprises de restauration, équipes de cuisine, afin que toute cette chaîne ait une certaine consistance et puisse servir au mieux la convivialité entre ceux qui consomment. Voilà. Et faire en sorte que l'accueil soit quelque chose qui se retrouve aussi dans l'assiette et dans le partage du pain entre tous.
Merci, ma sœur. Donc, on voit que les regards que vous portez, effectivement, enrichissent le débat. Et dans ce débat, bien évidemment, on essaie de donner du sens. Alors, Aurélien, tout à l'heure, nous a donné tout le sens de son métier. Et j'ai envie de poser la question à vous quatre. Que signifie plus précisément aujourd'hui nourrir pour vous, chacun, dans votre mission? Et on va peut-être commencer par Nicolas, justement.
Succinctement, si je peux, parce que je parle des fois un peu beaucoup. Nourrir, ben, en priorité, c'est essentiel pour la vie. Si on ne se nourrit pas, on ne peut pas aller très loin. Donc, et c'est un peu là la problématique. Je crois que le sens de nourrir a perdu un peu son sens, dans le sens où les agriculteurs ne sont plus considérés comme ils devraient être considérés. C'est la base de tout, la nourriture. Donc, l'agriculteur est devenu un peu la dernière chaîne du maillon et un peu une variable d'ajustement. Il faut faire prendre conscience aux gens que l'agriculteur est très important, l'agriculteur, l'agricultrice, c'est la base de tout, et que nous devons reconstruire quelque chose avec eux. Et tous ensemble, et nourrir, c'est sûr que c'est aussi c'est du lien social, parce que si vous avez plus vous avez de paysans et de paysannes sur le territoire, et plus vous avez de choix et de propositions d'alimentation sur les marchés. Les marchés sont un lieu de rencontre et de plaisir, plus que les supermarchés qui sont des lieux où on va acheter pour acheter. Le marché, ce sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et voilà, un peu pour moi ce que
oui,
c'est.
Oui, moi ce que j'ai envie de retenir de votre témoignage, c'est que, bien évidemment, nourrir, c'est aussi une responsabilité collective, citoyen, collectivité, bien évidemment. Et donc, dans ce contexte-là, vous militez en tout cas dans ce sens oui. Avec votre collectif.
Pour finir brièvement, l'alimentation et l'agriculture n'est pas uniquement l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'on s'y mette tous et à tout niveau.
C'est ça. Philippe Forêt, donc restauration collective et acteur actif dans la restauration collective, ça a du sens nourrir pour vous?
Oui, mais je vais rebondir, c'est un besoin. Oui. Aujourd'hui, sinon, je pense qu'on en ferait moins. C'est un besoin. Moi, cuisinier de métier, c'est un plaisir aussi. C'est faire plaisir. Et aujourd'hui, c'est redonner du sens à ce qu'on mange. C'est la priorité et sortir du côté économique et de redonner du sens et qu'on peut manger autrement.
Aurélien, le maraîcher passionné que vous êtes, nourrir, ça vous dit quoi?
Alors, pendant que les collègues discutaient, en fait, je pensais, on parle souvent de terre nourricière. On entend parler de terre nourricière. La terre, elle nous nourrit. La terre, c'était un caillou il y a plusieurs millions d'années. Et en fait, la nature, elle a cette capacité à produire de la vie toujours plus. C'est pas rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin, c'est un peu le cas, mais sauf que la terre, elle a cette capacité à transformer un caillou en vie. Et donc quelque chose de non vivant en vivant. Nous, notre mission, moi, ma mission de maraîcher, c'est ça, c'est aujourd'hui nourrir la terre et les hommes. C'est pas pour reprendre des grandes phrases qui ont déjà été dites, mais c'est le concret de ma vie. nourrir la terre, on parle en agronomie de ration du sol. Le sol a besoin de s'alimenter pour être un sol vivant. Et nourrir les hommes, c'est pas seulement les voir comme un moteur de temps dans lequel je vais mettre de l'essence. Dès qu'il n'y a plus d'essence, il faut que ça remarche, etc. Non, en fait, on crée, entre guillemets, de la personne humaine. Comme moi, quand je vois les clients qui s'alimentent depuis 5 ans chez moi et qui viennent toutes les semaines chercher des légumes, c'est des gens dont les cellules sont constituées on peut parler de terroir aussi, en fait, de la terre de la vallée de Batsurguère. Et donc, c'est déjà créer de la matière, mais toujours plus, c'est pas seulement alimenter une matière pour la maintenir plus ou moins en vie, quoi. Ça, on peut le faire avec des perfusions. Nous, ça va plus loin que ça. Et ensuite, donc, sur la question de la restauration collective, parce que nourrir, c'est nourrir l'humanité. Aujourd'hui, on dit que l'agriculture bio, l'agriculture paysanne, elle ne peut pas nourrir l'ensemble de l'humanité. C'est faux. Il y a des études qui montrent qu'on pourrait nourrir jusqu'à 12 milliards d'êtres humains avec les surfaces agricoles actuelles, mais on peut augmenter ces surfaces-là parce qu'on sait qu'elles ont diminué. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin. Et je voulais juste revenir sur la restauration collective et du coup, face à une agriculture industrielle qui a arrêté de nourrir le monde, qui en fait aujourd'hui montre qu'elle n'en est pas capable, la restauration collective, elle est née en parallèle de l'agriculture, de l'agro-industrie en fait, cette agro-industrie qui est destructrice, quoi. Mais il faut quand même nourrir les gens, donc cette restauration collective, il faut qu'elle arrive en parallèle et en partenariat avec les mangeurs et avec les producteurs à créer de la vie et toujours plus de vie, voilà, et non pas à détruire.
Et bien, je termine avec Sœur Bernadette.
Je vais reprendre la main avec ce que vient de dire Aurélien, de créer de la vie. Je crois qu'on s'alimente parce que c'est un besoin vital, mais en partageant le pain, on se relie à la terre, on se ressource, non seulement des biens de la terre, de la création, mais aussi de tous ceux qui ont été intermédiaires pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, depuis l'agriculteur jusqu'à ceux qui ont préparé les plats. Et ça permet de créer du lien, de célébrer ce que chacun a mis de sa part. Voilà.
Tout ce que j'entends, tout ce que vous venez de dire, c'est en fait donner du sens à ce qu'est le repas, à ce qu'est l'alimentation. C'est aussi un élément important que porte l'Église, puisque notre Église nous invite à regarder la réalité qui est la vôtre, à la questionner aussi à la lumière de l'Évangile, et chercher ensemble des chemins de transformation, et c'est ce que vous avez entrepris, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Bernadette, ici au Centre Assomption de Lourdes.
C'est ça.
Peut-on parler d'une bonne alimentation, et là je m'adresse à vous quatre à nouveau, si elle se fait au détriment de l'humain et au détriment de la terre? On commence par Aurélien. Oui.
Alors ce qui me vient, parce que c'est des questions très vastes, ce qui me vient là, du coup on s'est posé la question qu'est-ce que c'est nourrir, on peut se poser la question qu'est-ce que c'est manger, du coup dans l'autre sens. Ma sœur, vous disiez, c'est créer du lien, c'est presque créer de la joie, parce qu'en fait, si en mangeant, on est en lien direct avec la personne qui nous a alimenté, et si c'est une personne qui vit son travail joyeusement, bah, du coup, on crée de la joie. On peut créer de la richesse, on peut créer de la fertilité, mais on peut aussi ne pas créer tout ça. Et du coup, quand on prend, en fait, si on regarde, si les auditeurs qui nous écoutent ou les gens qui sont là, le prochain repas qu'on va manger, en fait, si on regarde qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, on peut se poser la question d'où ça vient, qu'est-ce que ça a consommé, sans se culpabiliser, se flageller, juste de prendre les choses de haut et de voir ce qui me nourrit aujourd'hui. En fait, est-ce que ça nourrit les gens qui l'ont produit, ou est-ce que ça a détruit la terre, est-ce que ça a favorisé des écosystèmes sociaux, ou est-ce qu'en fait ça a détruit des humains à l'autre bout du monde? Je prends un exemple tout bête, je ne vais pas citer de grandes marques, mais certaines huiles viennent, moi j'ai voyagé en Papouasie, aujourd'hui quand on mange ces huiles, moi je peux témoigner que en fait elles détruisent, elles financent une colonisation, elles détruisent des peuples, enfin notamment un peuple, donc le peuple des Papous dans certaines vallées, et elles détruisent leurs écosystèmes, mais elles détruisent leurs familles, elles tuent, parce qu'il y a vraiment la guerre sur place, on en parle peu. Et donc voilà, en fait, du coup, la question de aujourd'hui respecter la terre, respecter les hommes, c'est voilà, regarder dans mon assiette sans me culpabiliser, mais en me disant comment je peux être encore plus joyeux de manger, comment je peux créer de la joie, quoi. Et donc voilà, on a tout dans nos assiettes et on peut se poser la question, on a toutes les informations, donc c'est aussi se renseigner si on les a pas. Aujourd'hui, il y a la question de la DNC, il y a plein d'infos. Renseignons-nous, allons voir les producteurs, posons-leur les questions plutôt que de se laisser un peu mener en bateau par...
Merci Aurélien, j'avais envie d'interroger Philippe pour avoir un petit peu le regard de la restauration collective, puisque effectivement cette position de la bonne alimentation, souvent Philippe, souvent la restauration collective est très critiquée sur ce sujet. Vous, à titre personnel, et puis en tant qu'acteur de cette restauration collective, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Comment vous sentez que le sens des choses s'améliore?
Oui, la restauration a été critiquée, elle est plus ou moins toujours et à raison. Déjà, parce que on nourrit beaucoup de personnes. Il y a le côté économique où il faut nourrir à bas coût. Donc, ce qui fait que on achète industriel et à grosse quantité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout revoir. Je pense que c'est en marche. Il faut rééduquer les gens à manger, rééduquer les gens à manger les produits de saison. Je sais que chez nous, la tomate, le concombre, à partir d'octobre, on n'en a plus dans nos menus. Par exemple, le kiwi, si c'est pas le kiwi français, il y en a plus. Les pommes, quand il y en a plus de saison, il y en a plus. C'est rééduquer les gens à manger correctement, manger ce qu'il y a. Communiquer, je pense qu'aujourd'hui, on ne communique pas assez sur d'où vient le produit, qui le produit, comment il est produit. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et nous, les premiers, voilà. Parce qu'on utilise des bons produits, mais on ne communique pas.
Nicolas, je vous interpelle un petit peu parce que j'étais présent quand vous avez fait cette soirée débat à Lourdes autour de la restauration et du manger local. Et donc, il y avait notamment donc, cette structure qui s'appelle Les Pieds dans le Plat. Peut-être nous dire deux mots justement sur ce qu'est Les Pieds dans le Plat et pourquoi Les Pieds dans le Plat agissent aujourd'hui sur le territoire.
Oui, nous avons organisé une soirée ciné-débat dont le principal acteur était le collectif Les Pieds dans le Plat, qui est un collectif qui accompagne la restauration collective, notamment dans les collèges, mais pas que, puisqu'ils accompagnent depuis peu un EHPAD dans le 64, qui aide les cuisiniers de la restauration collective à passer au 100% bio, fait maison et le plus local possible. Et c'est assez bluffant ce que peut faire ce collectif, dans le sens où on comprend tout à fait la difficulté des cuisiniers ou cuisinières dans la restauration collective de faire de la bonne cuisine. Il y a une réglementation tellement importante, c'est faire souvent de l'alimentation pour des enfants, pour des dans les collèges, les écoles primaires. Donc c'est très compliqué de faire, de sortir des règles, ou d'essayer de faire les choses un peu différemment. Et ce collectif nous montre vraiment qu'il y a beaucoup de choses faisables et à échelle locale, et ce qui permet de faire travailler la production locale, les paysans, paysannes locaux. Mais juste pour rebondir par rapport à ça, à la notion de qualité, brièvement, je pense que actuellement, la société dans laquelle nous sommes, il est compliqué de faire aller en même temps la qualité et la production agricole. Pour faire de la qualité, alors la qualité c'est une vaste notion, pour faire de la qualité il faut du temps. Et le temps en agriculture, c'est ce qu'on a le moins pour faire des bons légumes. Et bien, il faut du temps pour faire de la bonne viande, il faut du temps pour faire du bon fromage, il faut du temps. Et souvent, on est pris par la société économique dans laquelle nous vivons actuellement. On a du mal à aller dans ce sens-là. Donc c'est là qu'il faut revoir un peu le système dans son ensemble. Parce que là, c'est la restauration collective, c'est important. Mais si on regarde bien, dans les collèges, les lycées, ça représente 4-5 repas par semaine. La majorité des repas se prennent dans les familles. Donc c'est une histoire de rééducation, c'est du temps long, de l'information, et il y a un travail important à faire là. Mais toujours pareil, sans avoir un jugement quelconque, positif ou négatif, c'est accompagner le mieux possible, remettre l'agriculture, l'alimentation, toujours pareil, au sein du débat, faire en sorte que ces problématiques-là reviennent régulièrement et soient, comme dans cette émission, au cœur du débat.
Oui, ce que vous dites simplement, Nicolas, c'est que c'est d'abord un acte fort d'éducation. Ou, tout simplement, Philippe, c'était un peu aussi le témoignage.
Tout à l'heure, on parlait de liens. En fait, aujourd'hui, on a oublié le lien, déjà avec son voisin. Et du coup, le lien sur l'alimentation, il n'y est plus. Et je pense qu'il faut rééduquer les gens à avoir du lien partout. Et ça sera aussi le lien dans l'assiette.
Tout ouais. à fait.
Sœur Bernadette, justement, peut-être un petit mot sur la bonne alimentation. Comment vous voyez la bonne alimentation au Centre Assomption ?
Eh bien, je pense qu'on est en train de vivre une conversion, où on essaie de la vivre, une reconversion, pour ne pas faire de l'alimentation quelque chose d'individuel, de rapide, de seulement personnel, même si on peut établir un self-service pour agiliser l'introduction dans le repas. Je trouve qu'il faut qu'on retrouve les tables communes où on partage, on puisse reconnaître le lien avec ce qu'on a dans l'assiette, la valeur de la terre, et puis à travers cela, rencontrer les acteurs qui nous ont préparé ce repas et retrouver aussi une convivialité. C'est pas je mange ce que j'aime, ce que je veux, et je m'en vais quand j'ai fini. Sinon, retrouver du lien avec ceux avec qui on partage. Retrouver le pain partagé, même si on n'a pas beaucoup à partager ou des mets spéciaux, mais faire en sorte que ce soit un espace de convivialité, de communion entre les convives. Voilà.
Merci, Sœur Bernadette. Alors, ça fait un excellent lien pour la suite, puisqu'on a pu regarder un petit peu, le voir, c'est-à-dire un petit peu ce que vous vivez, le juger un petit peu ce qui donne sens pour chacun d'entre vous. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus dans l'action, voir un petit peu ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur notre territoire, et en particulier sur le territoire de Lourdes, ce qui se vit aujourd'hui. Et là, j'ai envie de vous donner un petit peu la parole, d'abord autour des circuits courts existants, ce qui existe à Lourdes. Donc Aurélien, Nicolas, peut-être un petit témoignage succinct sur ce que vous vivez au travers de ces circuits courts. Aurélien.
Moi, je travaille à Ségus, je suis à 5 minutes des sanctuaires de Lourdes. J'accueille à la ferme tous les vendredis soirs, en gros de mai jusqu'au mois de novembre-décembre, environ une trentaine de clients qui viennent s'alimenter, qui commandent par internet sur un site qui s'appelle cagette.net, qui est une plateforme nationale et qui permet, voilà, il existe différents points de vente dans le département, c'est parfois collectif, parfois juste pour un producteur. Donc voilà, donc ça c'est une part de ma commercialisation, vente directe à la ferme. Donc là les mangeurs viennent chez moi et trouvent également du pain, du fromage et des confitures, des jus de pommes et compagnie, en plus des légumes. Donc ça, c'est une part de commercialisation. Une autre petite part, c'est en collectif de producteurs via ce même site sur Argelès-Gazost, mais c'est aussi existant à Lourdes. Les gens commandent et peuvent trouver donc de la viande, etc., etc., du miel. Et donc une autre part depuis cette année, une autre part de ma commercialisation, c'est ce travail avec la maison Assomption et son partenaire Philippe Forêt, responsable local. Et les cuisiniers et cuisinières qui sont en place pour du coup adapter leur cuisine à une production locale avec donc mes légumes mais également tout le reste des besoins en cuisine, mais moi je participe sur les légumes.
Nicolas, vous dans le cadre de votre collectif, cette proposition de circuit court, c'est quelque chose qui existe et qui s'étend ou...
Alors qui existe, oui elle existe puisque, alors petite précision, il faut parler à mon avis de circuit court et local, parce qu'un circuit court,
on peut
avoir un produit qui arrive directement de Chine chez un producteur.
Là, on parle de
voilà, c'est court et local. Ouais. C'est, les deux vont de pair. Le collectif a été créé à l'initiative de deux groupes cagettes qui sont des regroupements de producteurs qui permettent de proposer localement des produits regroupés sur Argelès et sur Lourdes. Mais effectivement, ces circuits courts et locaux sont essentiels. Et c'est ce sur quoi on travaille par le biais du collectif. Et notamment avec cette période un peu qui va devenir importante au niveau même politique, avec les élections municipales qui arrivent au mois de mars prochain, il est important de faire prendre conscience aussi aux futurs élus et aux différentes collectivités qu'il faut soutenir et même encourager l'installation de ces circuits courts et locaux pour proposer le plus largement possible et même accompagner l'installation de producteurs, productrices de différents secteurs localement pour pouvoir alimenter ces circuits courts et locaux qui sont en forte demande également, mais souvent manque de produits. Voilà.
Et concrètement, alors je me mets à la place de nos auditeurs, j'arrive là, je fais mes courses pour Noël. Et donc, j'ai bien entendu le discours que vous portez. Donc, j'ai envie d'aller acheter quelques produits pour ma belle table de Noël. Comment je fais quand je suis à Lourdes? Comment on vous trouve? Comment on trouve le produit que je cherche?
Déjà, il faut se poser la question, je dirais, si je peux me permettre, sur le produit que je cherche.
Oui.
Est-ce que c'est un produit que je vais trouver localement? Si je tiens absolument à mon petit pain de mie avec ses petits œufs de poisson... on ne sait même plus quel poisson c'est qui fait ses œufs d'ailleurs, et du coup ça, on ne va pas les trouver sur les points collectifs Cagette, quoi. Donc c'est déjà réussir à réfléchir un menu joyeux dans la sobriété heureuse. Nous, c'est quelque chose qu'on vit au niveau familial, famille élargie. Et donc se dire, je vais avoir du butternut, des côtes de porc, il reste quelques oignons, il y a des patates sur Cagette Argelès. Et y a un copain qui fait des plantes aromatiques et médicinales, donc je vais avoir du thym, du romarin. Et en fait, c'est pas grand-chose. Nous, on est plein à faire aussi des confitures, des choses comme ça. Moi, je fais de la crème de marron, par exemple. Donc, pour les bûches de Noël, c'est facile. De la farine en local, on en trouve facilement. Comment faire simple avec ce qu'il y a? Et finalement, c'est pas compliqué de cuisiner. Ça devient, le repas de Noël devient quelque chose de moins compliqué, parce qu'en fait, des grosses courses à Leclerc où on va avoir finalement plein de déchets, plein de propositions, aller faire la queue, etc. Ouais. Finalement, on peut faire quelque chose de très simple, très bon et finalement pas cher, avec des choses qu'on peut croire qui vont coûter plus cher et finalement être très heureux, passer moins de temps en cuisine, moins de temps dans les grandes surfaces, etc.
Donc voilà une belle suggestion faite par notre maraîcher Aurélien, c'est de revoir complètement nos habitudes de Noël. Stop au foie gras, stop aux huîtres, stop. Reprenez ce qui existe au local.
Foie gras,
c'est une façon d'agir, pourquoi pas.
Il y a du foie gras local.
Il y a aussi du foie gras local, c'est vrai.
Volaille locale.
Oui. Alors, après, il faut revenir au repas traditionnel. La dinde, elle était dans le jardin et on l'a mangée pour Noël.
Bien sûr. Donc, bien sûr. Alors justement, Philippe, puisque vous êtes aussi dans la restauration, au-delà du repas de Noël, et donc j'ai envie que vous nous de voir un petit peu votre regard sur ce que vous vivez aujourd'hui, Elior, à l'Assomption. Voir un petit peu ce qui se vit ici. Pourquoi un grand groupe comme Elior, numéro 2 ou numéro 3 mondial, je ne sais plus, s'intéresse d'un seul coup à Sœur Bernadette et à sa communauté pour effectivement transformer un petit peu ce regard sur la restauration collective?
Alors, en fait, moi, c'est le projet qui m'a plu, de redonner du sens à ce qu'on faisait manger aux gens. C'est la rencontre avec Aurélien. Voilà, partager, échanger avec le producteur, c'est la volonté de changer sa façon de manger. C'est aujourd'hui, quand on a travaillé avec Aurélien, on n'a pas parlé de prix. Moi, pour moi, c'était je prends ses produits, on ne parle pas de prix. Du coup, ça a un impact économique et moi, j'ai le devoir et c'est mon rôle de maîtriser les coûts. Donc du coup, on s'est dit ensemble... Ben, mangeons différemment. Est-ce qu'on a besoin de manger de la viande à tous les repas? Et du coup, on est allé plus loin. Ce n'est pas un menu sans viande par semaine, c'est un par jour. Y en a un avec viande et un sans viande. Et réapprenons à cuisiner les légumes de A à Z. Donc, mais même moi qui adore cuisiner, c'est... quand Aurélien livre des légumes, qu'est-ce que je vais faire de tout ce qu'il y a de la racine à la fleur, à la feuille? Comment je vais l'utiliser? Donc c'est de la recherche, etc. Et donc je pense qu'on a toute une éducation à refaire. Et après, beaucoup de choses à changer, de mentalité à changer. Aujourd'hui, dans la restauration collective, si vous ne donnez pas les menus sur 4 mois, et si les parents ou l'adulte ne sait pas ce qu'il va manger dans 4 mois, c'est compliqué. Et surtout que ce qu'on a prévu dans 4 mois, il faut que ce soit présent. Donc Aurélien, il a du travail, parce que s'il me prévoit des courgettes dans 4 mois, il faut qu'elles soient là. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est de dire, la terre, elle nous a pas... et le temps a fait que la courgette, elle a une semaine de retard, on va changer. Voilà. Qui, aujourd'hui, est prêt à le faire? pas beaucoup de personnes. À la rigueur, sur les légumes, ça peut passer. Sur le reste, ça passe pas du tout aujourd'hui. Pour le vivre un peu partout. Et c'est toute la difficulté de trouver les produits et en quantité suffisante.
En fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que, bien évidemment, quand on a choisi de changer de mode d'alimentation et d'avoir prendre soin de la terre et de la création, inévitablement, on va trouver des millions d'obstacles. Et la conscience de l'importance de ce changement fait qu'on trouve des solutions. On a des leviers pour passer tous ces obstacles. C'est un petit peu ça. Et je voudrais revenir, parce que moi, je l'ai vécu avec vous, à l'Assomption, cette relation importante, presque intime, entre le chef, le cuistot, et puis le maraîcher. C'est aussi quelque chose de central. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau dans la restauration collective, inévitablement.
Oui, mais ça va plus loin, je veux dire. On voit souvent à la télé les grands chefs qui vont dans leur potager ou le potager du jardinier pour voir les légumes. Je pense que c'est hyper important. Moi, je dis à mon chef, mais tous les lundis, va voir Aurélien, prends un couteau et va voir les produits. Ça va te donner des idées sur les recettes à faire. Donc, ça change tout. Hein. C'est-à-dire que dans ce mode de fonctionnement, on ne prévoit pas. C'est le jardin qui prévoit. Et qu'est-ce qu'on va adapter? Mais ça, c'est compliqué. Hein. Mais je suis heureux de pouvoir le mettre en marche et de me dire ben, ça servira et il ne faut pas lâcher parce que si on veut que ça change, c'est maintenant.
Alors, vous évoquez tous un petit peu au travers de ces contraintes ce que vous vivez dans les Hautes-Pyrénées. Je le sais puisque je l'accompagne aussi avec Sœur Bernadette au titre de l'Assomption. Il y a aussi une réflexion par rapport à l'état des lieux des jardins des congrégations, et donc il y a une réflexion aussi avec les autres congrégations pour voir un petit peu quels sont les jardins qui pourraient être mis à disposition des maraîchers autour de Lourdes. Donc là, je pense que Sœur Bernadette, vous l'avez partagé cette réflexion avec d'autres, une autre congrégation, hein, Petit Couvent, Grand Couvent.
C'est ça.
Hein, et Aurélien, vous êtes témoin de cette situation puisque vous réfléchissez dans ce groupe de travail pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions on pourrait installer un maraîcher. Hein, c'est bien ça ?
Il y a pas mal de terrains disponibles. Même au niveau des communes, c'est une réflexion qui est menée aussi avec le collectif Alimentation et Territoire. Donc il y a une réflexion qui est menée, nous, déjà avec les sœurs, sur un projet à Lourdes pour installer un maraîcher. Et alors, installer un maraîcher, c'est pas seulement lui trouver un terrain, c'est lui trouver aussi un débouché. Parce qu'aujourd'hui, la niche de mangeurs bio local, elle est limitée. Et donc un maraîcher peut avoir du mal à s'installer de peur de ne pas écouler localement sa production. Si demain on lui propose 15 cantines scolaires, 5 ou 6 centres d'accueil de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, avec des personnes comme Philippe et des cuisiniers, cuisinières qui s'engagent, et des parents d'élèves et des familles, demain, dans les écoles agricoles, on dit « il y a un débouché, vous allez vivre de votre métier », et demain on transforme le paysage rural en fait. Donc c'est pas seulement, enfin, première étape c'est proposer des terrains évidemment, mais c'est aussi dire à des jeunes, demain vous allez pouvoir vivre de l'agriculture, vous allez pas juste vivre ce qu'on voit à la télé aujourd'hui des agriculteurs, demain vous allez être dans la joie de faire un métier qui vous plaît, vous allez être dehors, vous allez travailler avec les oiseaux, vous allez faire du bien à l'humanité, et ça donne envie à des jeunes de devenir paysans quoi. Aujourd'hui dans les fermes, les paysans disent à leurs enfants, ne t'installe pas, fait de la location, va travailler à la ville, etc. Mais personne ne veut plus s'installer, quoi. Il faut, je l'entendais en manifestation là, il y a quelques jours, une collègue au micro qui disait, je sais pas pourquoi en fait on encaisse tout ça, pourquoi on accepte, on est un peu taré finalement, hein. Mais donc il faut être un peu taré aujourd'hui pour être paysan. Demain, avec ce que vous vivez à l'Assomption, avec les communautés religieuses à Lourdes et ce que propose le collectif Alimentation et Territoire et la restauration collective, on a des issues possibles.
Merci. Alors, je vais me tourner vers à la fois Nicolas et vers Philippe sur cette question et sur cette conclusion que vient de nous dresser magnifiquement Aurélien, justement sur qu'est-ce qui marche déjà ici et surtout qu'est-ce qui mériterait d'être soutenu par rapport à vos témoignages aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut soutenir sur Lourdes? Alors, à la fois, moi j'ai quelques idées, hein, quand vous réunissez les Lourdais autour de ce sujet dans le cadre d'un ciné-débat, c'est que quelque part vous avez quelque chose à dire aux politiques, vous en direz plus. Et puis également, Philippe, lorsque vous vous investissez personnellement dans un projet comme celui de la restauration telle que elle est conçue aujourd'hui au travers de la Laudato si à l'Assomption, vous avez aussi à la fois une idée de ce qui marche et une idée de ce qui mériterait d'être soutenu davantage, et j'aurais voulu vous entendre tous les deux là-dessus. Nicolas ?
Dans le cadre du collectif, en fait, le but, c'est d'essayer d'aller chercher les idées qui peuvent marcher un peu partout et de savoir comment on peut les appliquer sur notre territoire. Et je pense que ce qui est très important, en fait, c'est et là où on peut avoir une utilité, c'est de repartir de nos territoires et où on peut travailler localement et de savoir, voilà, faire un diagnostic, ce qu'il se passe, ce qui manque. Et là où il y a un gros travail à faire, à mon avis, c'est au niveau surtout de la logistique. Et ce que disait Philippe tout à l'heure est tout à fait vrai. On a un gros souci de communication entre les producteurs, déjà, entre eux, effectivement, qui malheureusement manquent souvent de temps pour faire autre chose que leur production, et comment alimenter la restauration collective, la restauration privée, les personnes... Parce que c'est vrai qu'il est très compliqué, même pour un citoyen lambda comme moi, de faire mes courses. Si je dois faire le tour du département pour aller chercher tous mes produits chez différents producteurs, il faut du temps, des moyens de locomotion. Voilà. Et c'est à mon avis là qu'on peut travailler tous ensemble. Et c'est là que je reviens à la politique et aux élections, parce que c'est les différentes collectivités qui peuvent aider la société à installer un peu toute cette logistique et de savoir comment peut-on faire des magasins de producteurs, des cagettes XXL, des marchés plus développés et plus accessibles, des distributions de produits, et comment l'alimentation locale peut être disponible pour tous et pour tout le monde à des coûts les moins élevés possibles.
Alors peut-être, Nicolas, je profite de votre intervention pour rappeler à nos éditeurs qu'il y a quelques années déjà, ces questions étaient posées autour d'un projet alimentaire territorial, puisque effectivement, l'idée force, c'est de se réunir tous autour de la table pour parler de l'alimentation locale. Et c'est ce que vous portez, en fait, hein, et c'est le message que vous portez. Donc l'idée, c'est de dire, mais pourquoi on ne se met pas tous autour de la table, producteurs, distributeurs, transformateurs, consommateurs, acteurs et puis mangeurs, pour réfléchir ensemble un projet de société, un projet social, un projet alimentaire qui permettrait de donner une vie plus joyeuse que celle qu'on a actuellement sur notre territoire. C'est bien ça?
Tout à fait, oui. Le PAT, effectivement, est un projet alimentaire territorial qui est mis en place nationalement, mais qui avait été lancé localement, mais malheureusement n'a pas abouti par manque peut-être effectivement de se mettre autour d'une table et de faire que politique. Tout le monde aille dans le même sens. Ouais. Mais ce sont des projets qui d'avenir. Quoi. C'est ce vers quoi le collectif veut aller et vers quoi notre territoire doit aller.
Merci Philippe. Moi je me tourne vers votre regard parce que je trouve qu'il est pertinent, parce que vous êtes sans doute quelqu'un qui est en train de transformer la restauration collective par votre investissement personnel. Donc justement, cette restauration collective, on sait d'où elle part, on a une vision où elle voudrait aller, en tout cas ce que vous souhaiterez faire vous aujourd'hui, et par rapport à ce regard, selon vous, qu'est-ce qui mériterait d'être soutenu davantage?
Alors je vais dans le 65. Il y a quelques années, il y avait une plateforme qui avait été créée pour regrouper pas mal de producteurs. Ça a échoué. Je pense qu'il y a eu des choix politiques qui ont été mal faits. Je pense que dans le 65, il faudrait que ça se recrée. Mais je pense qu'il faut que les producteurs soient plus impliqués, soient acteurs de ce projet. Je pense que les hommes politiques doivent aider à mettre des structures en place, mais c'est tout. Ils ne doivent pas être gestionnaire de ce projet, parce que sinon ça fonctionnera pas, et il faut bien l'implanter. C'est-à-dire que ici le territoire, c'est entre Tarbes et Lourdes, et c'est pas ailleurs. Si on veut faire travailler tout le monde, c'est le cas. Moi j'ai le cas aujourd'hui dans le 64 où il y a la communauté des communes qui aide un collectif, mais c'est des producteurs qui sont acteurs de cette plateforme et ça fonctionne. Et après, ce qu'il faudra, c'est de la communication. Parce que, pour l'avoir vécu là, il y a eu un challenge qui a été fait dans le Béarn, ils ont choisi que 9 établissements pour faire un repas locavore bas carbone. Mais en fait, les produits n'étaient pas dispo. Et oui. Parce qu'il n'y a pas de communication. En fait, chacun de son côté a essayé de créer un menu sans savoir si les produits étaient présents. Quand on disait tout à l'heure, pour le repas de Noël, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, c'est d'abord regarder ce qui est présent. Et je pense qu'il faut qu'il y ait toute une communication là-dessus. Les demandeurs, les producteurs, les consommateurs. Voilà. Et de manière à ce que ça fonctionne. Et ça fonctionnera parce que je pense qu'aujourd'hui, les produits sont là, mais chacun les a de son côté. On ne sait pas les besoins qu'il y a. On ne sait pas. Du coup, les producteurs essayent de se débrouiller de leur côté pour essayer d'écouler leurs marchandises. Et ça pourrait donner envie à d'autres de s'installer. Et le consommateur, il va au marché, il ne comprend pas que nous, on ne puisse pas trouver le produit, etc. etc. Ouais. Donc beaucoup de choses à modifier, mais je pense que c'est le lien qu'il faut créer entre tout le monde et la communication.
Oui, c'est l'objet même de cette émission, c'est de prendre conscience que effectivement, on est à la veille de Noël sur Bernadette, on est donc dans un espace de grande espérance, et cette espérance, on peut la porter aussi au travers de la nécessaire transformation dont tous les trois vous venez de témoigner, à la fois au niveau de la production, au niveau de l'organisation, la distribution et aujourd'hui la cuisine d'une façon plus large. Et puis j'ai envie de donner aussi la parole à Sœur Bernadette parce que cette transformation, c'est ce que veut, c'est ce que souhaite et ce que vit aujourd'hui cette maison, cette belle maison du Centre Assomption. Et donc dans cette transformation, l'idée quand même, c'est d'essayer d'amener les gens qui viendront demain au Centre Assomption à réfléchir sur justement leur mode de vie et à peut-être faire l'expérience d'un autre mode de vie. Mais je vois que Philippe veut rajouter quelque chose avant.
Je suis désolé.
Non, il n'y a pas de problème.
Tant que je l'ai dans la tête, il y a aussi... il y a une problématique pour la restauration collective, c'est la réglementation aujourd'hui. Ce qui fait qu'on ne va pas se servir directement chez les producteurs pour certains produits à base de protéines animales parce que la réglementation est tellement stricte est tellement lourde que ça met des barrières un peu partout. Et je pense que tout le monde qui devrait se mettre autour de la table, je ne vois pas pourquoi, si on fait les choses correctement et que le produit est bon, on prendrait des risques à faire manger 200 personnes ou 300, et alors qu'à la maison, on prend beaucoup plus de risques et personne n'est malade. Et puis ça remettrait aussi, je pense, les gens en bonne santé.
Et puis vous rejoignez le discours actuel des agriculteurs hein, qui justement dénoncent un petit peu cet excès de réglementation qui les empêche de travailler. Alors Nicolas, il veut réagir.
Oui, deux secondes, parce que c'est vrai que la réglementation, et c'est là que je reviens au collectif Les Pieds dans le Plat, qui par exemple a remis les eaux coquilles en circulation dans les collèges, notamment en Dordogne, où ils ont développé, le département de la Dordogne est très en avance par rapport à ça, ils ont remis les œufs en coquille dans le milieu, alors que vous parlez à n'importe quel cuistot de la restauration collective, vous dites les œufs coquilles non interdits. Alors que ce n'est pas du tout interdit.
Non, ce n'est pas interdit. Oui.
Voilà. Exactement. Mais il y a une façon de les utiliser qui fait que, effectivement, on peut être. C'est une ligne de crête qui est un peu compliquée à utiliser. Mais le collectif aussi utilise un producteur de porc qui amène directement, alors pas le porc entier, mais le porc entier, mais découpé sous vide, et où ils utilisent tout. Et alors, ils ne passent que par l'abattoir qui découpe l'animal. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Et effectivement, il faut être accompagné pour ceux qui le souhaitent. Mais beaucoup de choses sont possibles. Et c'est cette réglementation qui fait qu'effectivement, on peut être des fois la peur de mal faire ou la peur de se retrouver avec des problèmes sanitaires derrière.
Merci.
Oui, on est dans une société aujourd'hui où tout le monde tire la couverture pour ne pas avoir de problème. Et du coup, ça engendre des interdictions de partout.
Alors justement, je reviens vers vous, Sœur Bernadette, inévitablement pour reparler un petit peu de ce qui mériterait d'être soutenu davantage. Et moi, j'ai envie aussi de faire partager à nos auditeurs un petit peu cette belle expérience qui se vit au Centre Assomption, où la transformation, c'est aussi transformer les gens qui viendront, qui vont traverser un petit peu ce projet, pour les aider à justement à réfléchir sur ces questions profondes qu'on a essayé de poser ensemble sur cette matinée et de pouvoir expérimenter autre chose.
Bon, on a parlé de Noël, on est à la veille de Noël, ce temps d'espérance, où on va tous, d'une manière ou d'une autre, célébrer. Mais Noël, c'est la venue d'un monde nouveau, de quelque chose qui germe, tout petit. Et je crois que l'expérience qui est en train de se réaliser dans la maison, grâce aux différents acteurs, c'est quelque chose qui vaut la peine de soigner, de cultiver, de s'entraider à le préserver, de le soutenir. Et c'est un peu notre rôle comme religieuse, parce qu'on n'a pas les mains dans la pâte comme le cuisinier ou l'entrepreneur en gastronomie. Mais justement, comprendre les mécanismes, soutenir les acteurs, c'est un rôle important pour nous. Et puis faire en sorte que celui qui reçoit le plat cuisiné, qui vit la gastronomie au quotidien dans la maison, puisse valoriser tout ce travail, redécouvrir une manière nouvelle de se nourrir, de partager le pain, que ce soit avec des produits locaux, enrichi ou non, mais de découvrir qu'on peut faire autrement. Et c'est un peu Noël, ça. Hein? Le salut qui vient, l'espérance arrive d'une manière insolite, à travers un enfant tout petit, qui n'a pas de parole. Nous, on est un petit peu démunis par rapport à beaucoup de processus qui se gèrent ou qui s'administrent dans ces domaines-là. Mais en soignant la vie qui commence à poindre d'une manière ou d'une autre, en encourageant les acteurs, je pense que c'est notre rôle et puis notre espérance pour que la maison soit un petit peu une petite lumière pour d'autres. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que le restaurant se propose aussi, le travail en cuisine, d'être ouvert à d'autres entités qui peuvent accourir et recourir à la manière de se nourrir ici et participer aussi de cette entreprise, entre guillemets.
Oui, concrètement, l'idée que vous portez, c'est de témoigner d'une restauration fraternelle, c'est ça. Localement sur Tarbes. Et donc, le Centre Assomption envisage, sur l'été peut-être, ouvrir un petit peu ses portes et accueillir justement cette expérience nouvelle de nourrir les gens et en particulier de se créer ce lien, puisqu'on l'a dit tout au long de l'émission, l'alimentation, c'est le lien. Et donc, créer ce lien aussi avec les Lourdaises et les Lourdais ou les gens de passage, tout simplement. C'est bien ça.
Et voilà.
Hein, voilà. Merci en tout cas infiniment. On arrive à la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier très fortement pour votre implication, vos témoignages. Je pense que c'était riche et très intéressant. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez été intéressés, interpellés, et voire peut-être que vous modifierez quelque chose dans vos achats de Noël, inévitablement. Merci aussi à Radio Présence. D'avoir donné cette antenne. Je pense que Radio Présence, je le dis souvent, c'est de la présence et de la proximité. C'est la preuve encore aujourd'hui que c'est important dans ces moments de crise et de fête. Et puis merci aussi à vous, chers auditeurs, inévitablement, d'être à notre écoute et puis de nous accompagner, nous encourager dans cette relation et ce lien que nous créons avec vous au travers de la radio. Nourrir n'est jamais un acte neutre. On l'a vu tout au long de l'émission. C'est avant tout prendre soin. Je crois que c'est ce que nous disait Sœur Bernadette au travers de Noël qui arrive. C'est aussi prendre soin de la terre, prendre soin de nos paysans. Ils en ont besoin en ce moment, hein, inévitablement. Prendre soin des plus fragiles aussi, dans ce contexte, comme le petit Jésus fragile est arrivé. Et comme chrétiens, nous croyons que l'alimentation peut devenir un chemin de justice, peut devenir un chemin de fraternité, et comme nous l'a témoigné Sœur Bernadette, c'est aussi un chemin d'espérance. Inévitablement, ce chemin humble, enraciné dans notre territoire de Lourdes, où chacun a sa place et où chacun a sa dignité. Alors, chers auditeurs de Radio Présence, à la veille de Noël, nous pouvons tous poser un geste simple. Choisir, par exemple, un produit local, comme nous l'a dit Aurélien tout à l'heure. partager notre table, manger avec gratitude, ou encore prendre part dans chaque assiette, quelque part, du travail des hommes et des femmes qui produisent notre alimentation. Finalement, on voit bien qu'il y a plus que de la nourriture, il y a aussi beaucoup de liens qui se tissent autour de cette nourriture. Il y a aussi une dignité à respecter, et surtout, comme nous disait Sœur Bernadette, une espérance, une grande espérance à faire grandir. Et justement, c'est Noël, c'est ce temps d'espérance. Alors, chers auditeurs, chers tous, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous souhaite des tables tout à fait adaptées à la situation d'aujourd'hui, avec des produits locaux et des produits saison. Et je vous dis à très bientôt.